Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la solution à la crise politique française passera-t-elle par Bruxelles? Pour les auteurs du manifeste pour la démocratisation de l'Europe, initié entre autres par Thomas Piketty, signé par plus de 15 000 personnes en Europe, la réponse passe d'abord par une transformation en profondeur des institutions de l'Union. Manifeste pour la justice fiscale et sociale, selon ses auteurs, le projet contient notamment deux propositions concrètes, un projet de traité de démocratisation et un autre de budget. Avec nous, deux de ses auteurs. L'économiste Anne-Laure Delatte, tout d'abord directrice adjointe du CEPI, responsable du programme de recherche macroéconomie et finances internationales. Bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, le politiste Antoine Vaucher, directeur de recherche au CNRS, membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Bonjour.
Bonjour.
Vous indiquez aussi qu'autour de 13h23, un peu après 13h20, nous retrouverons, comme un jeudi sur deux, le rendez-vous de la médiatrice. Alors pour commencer, de nouveaux appels à manifester ce samedi circulent sur les réseaux. Point de convergence, les institutions européennes. Alors qu'en France, la mobilisation, disent certains, se tasse un peu. Le mouvement va-t-il pour vous, Antoine Vaucher, se déplacer vers Bruxelles? Et si oui, quel sens donnez-vous à ce transfert politique et symbolique?
Oui, je pense qu'une partie de la crise effectivement actuelle, et notamment effectivement des mobilisations et des slogans qui tournent autour donc de la mobilisation des gilets jaunes, autour du pouvoir d'achat, autour de la question de la justice fiscale, autour de la question de l'investissement dans les services publics. Une partie de la réponse à ces questions n'est pas simplement française. Une partie, je dirais, des boîtes noires de cette crise française, eh bien, elles sont pas seulement justement à Paris, mais elles sont aussi à Francfort, elles sont aussi à Bruxelles. Et c'est aussi le moment donc de se rendre compte que l'Europe a profondément changé en 20 ans, que autour de la stabilité de l'euro, autour de la crise de l'euro aussi dans la dernière décennie, on a construit finalement un gouvernement européen très puissant qui encadre les politiques nationales, les politiques budgétaires, les politiques sociales, qui a un effet du coup sur les marges de manœuvre des États, sur leur capacité justement à relancer l'investissement public, leur capacité également à pratiquer des politiques justement de lutte contre les inégalités. Et donc une partie du verrou en quelque sorte de cette crise se situe à Bruxelles, et c'est de ce diagnostic-là finalement qu'on est parti.
Vous dites qu'une partie des solutions à la crise mise en lumière par le mouvement des Gilets jaunes en France, qui ne serait pas une exception française, serait à Bruxelles, que les inégalités, la fracture sociale, géographique mise à jour se retrouvent dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est une partie de la solution, mais est-ce que Bruxelles est aussi une partie du problème? En réaction à votre manifeste, le Guardian estimait qu'il était tragique de voir que l'Union européenne est devenue partout le bouc émissaire de tensions sociales dont elle n'est pas responsable, que à ces crises propres à chaque pays, comme en Grande-Bretagne, la réponse de l'Union a en revanche été trop limitée à des décisions insuffisantes et à de vagues promesses. C'est aussi ce qu'on a pu entendre dans les rues d'Athènes les week-ends précédents, avec des manifestations qui ont affiché leur soutien au mouvement des Gilets jaunes français, des actions de solidarité pour dénoncer l'austérité mise en place par les politiques européennes. Est-ce que pour vous, Anne-Laure Delatte, l'Europe, l'Union européenne, Bruxelles est aussi une partie du problème avant d'être la solution?
Alors oui, malheureusement, l'Europe est une partie du problème. Et comme le disait Antoine à l'instant, l'Europe est devenue hyper puissante en réalité avec cette crise qui a commencé en 2009, disons, en Grèce. Et elle s'est immiscée, l'Europe, dans le contrat social, dans le pacte social et national de chaque pays membre, en exigeant donc des nouvelles règles budgétaires, en imposant des réformes structurelles. En réalité, aujourd'hui, la politique économique au niveau national, elle est en partie contrainte par les règles budgétaires et par un cadre européen. Donc, malheureusement, l'Europe qu'on a construite aujourd'hui, elle est une partie du problème. Et il me semble que là où l'Europe peut être une solution, c'est pas l'Europe d'aujourd'hui, c'est pas cette Europe-là dont on a besoin. On a besoin d'une nouvelle Europe, ou en tout cas une Europe qui remplit le contrat qu'on lui a donné au départ, qui était un contrat politique et non pas uniquement économique. Si on a créé l'Union européenne et si on a un moment créé la monnaie unique, la motivation au départ était politique. Il faut retrouver cette motivation-là, ce contexte-là. Donc c'est l'ambition, l'objectif de nos propositions. Revenir sur un contrat
qui tourne autour
social.
De la même problématique. Voilà, c'est voilà. Ça qu'on peut entendre en France à l'échelle européenne, celle de la justice sociale, celle de la justice fiscale aussi.
Alors oui, en réalité, on est parti du constat effectivement que premièrement, l'Europe était devenue extrêmement puissante. Elle était rentrée dans le pacte national et on subissait une forme d'injustice sociale et d'injustice fiscale. Donc c'est pour ça qu'on propose une façon de faire contribuer ceux qui finalement ont le plus bénéficié de l'Europe. Qui sont ceux qui ont le plus bénéficié du marché? Ce sont les grandes entreprises, les multinationales, et finalement les ménages à plus haut revenu. Or, si on regarde leur contribution aujourd'hui en termes d'impôts, c'est ceux qui en payent le moins en pourcentage de leurs revenus. En particulier, si on pense aux multinationales, c'est frappant. Donc, on a des propositions pour rétablir une forme de justice fiscale qui repose sur des impôts qu'on collecterait au niveau européen pour de nouveau faire contribuer les plus hauts revenus et les multinationales. Et en fait, en le faisant ensemble, ça nous permet d'avoir une politique à la fois harmonisée, mais d'être plus forts ensemble en réalité pour collecter des revenus qui vont nous permettre de traiter des problèmes qu'on ne peut plus traiter au niveau national. Et c'est pour ça, on y viendra peut-être après, mais on essaye de traiter le changement climatique, l'accueil des migrants et leur intégration. Tout ça, ce sont des biens publics collectifs, ce sont des questions qu'on ne peut plus traiter juste en France ou en Allemagne. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait besoin de revenus. On avait besoin de lever des revenus ensemble, des impôts, mais qui sont adressés à ces agents économiques qui ont le plus bénéficié, pour financer une lutte contre le changement climatique, contre les inégalités, et pour l'accueil et l'intégration des migrants.
Voilà, et pour financer aussi les structures. Hein, vous soulignez un sous-investissement public structurel dans la recherche et la formation. Cette question, effectivement, la crise des réfugiés, l'accroissement des inégalités, le réchauffement climatique sont au cœur de ce manifeste que vous avez ensemble rédigé. Il y a un problème de sous, il va falloir aller chercher l'argent pour financer toutes ces mesures. C'est aussi à cela que la France s'est retrouvée confrontée. Après l'Italie, la France s'apprête à sortir des clous budgétaires européens, les mesures annoncées par Emmanuel Macron en réponse à la contestation des Gilets jaunes, et qui ne sont peut-être qu'un début, de la hausse du SMIC à la défiscalisation des heures supplémentaires qui ont fait suite à la réforme de l'impôt sur la fortune, qui avait déjà enlevé une manne pour l'État, ont un coût et la dépense publique va devoir augmenter. Matignon a estimé le déficit public pour 2019 à 3,2% du PIB. Sur RTL, le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, a estimé de son côté que la France serait le seul pays de l'Europe à dépasser les 3% de déficit en 2019. Écoutez-le.
Il y a une première idée reçue qui est que nous sommes les grands méchants et donc nous sanctionnons tout pays
qui dépasse.
Ça n'est pas le cas. Ouais. Donc nous n'allons pas être du tout dans une logique de sanction, mais nous serons dans une logique de dialogue sérieux, exigeant avec le gouvernement français. Deuxième idée reçue, il y a deux poids deux mesures, il y a la France et il y a les autres. Cette idée est fausse également. Et je veux expliquer pourquoi l'approche de l'Italie n'est pas la même que celle de la France. Parce qu'il y a deux différences majeures. S'agissant de la France, vous avez une urgence sociale, vous avez des mesures exceptionnelles sur un an avec un dépassement temporaire. C'est autorisé par les règles. S'agissant de l'Italie, il y a une situation qui est toute différente puisque vous avez une politique de relance sur 3 ans. Et donc, ce qui me préoccupe, et c'est la deuxième différence avec la France, c'est que le niveau de dette français est certes trop élevé, il tangente les 100%, mais le niveau de dette italien est bien supérieur, il est à 130%. Donc, d'un côté, un pays qui dépasse temporairement avec une dette qui est trop élevée, mais qui est encore soutenable. De l'autre côté, un pays qui veut faire une politique de relance avec une dette qui est très élevée. Mais je veux ici vous faire une annonce. Je suis en train de travailler ardemment, presque jour et nuit, pied à pied, pour que l'Italie ne soit pas non plus sanctionnée. Je pense que l'Italie est un grand pays de la zone euro, que l'Italie a sa place au cœur de la zone euro, et donc je suis en contact permanent avec Monsieur Tria, le ministre des Finances, avec Monsieur Conte, le président du Conseil. Nous travaillons d'arrache-pied dans un dialogue constructif pour faire en sorte que l'Italie puisse mener la politique qu'elle veut. Après tout, c'est pas à moi de discuter de la légitimité du gouvernement italien ou de sa politique, mais qu'elle le fasse en respectant les règles.
Antoine Vaucher, est-ce qu'il y aura probablement des sanctions de la Commission contre la France ?
Pas nécessairement. On retombe finalement dans un jeu qu'on a vu jouer un certain nombre de fois maintenant. À travers la crise grecque, la crise italienne, maintenant française, où il y a tout un jeu de rapports de force qui se joue entre le pays qui veut dépenser, en quelque sorte, et la Commission européenne. Et finalement, on est un peu au cœur du piège démocratique européen, c'est-à-dire qu'on a finalement des États, des gouvernements qui entendent faire des politiques, mais qui sont encadrés économiquement et budgétairement. Et à l'inverse, une Commission européenne qui, on l'entend d'ailleurs dans les mots de Pierre Moscovici, entend ne pas faire de politique, mais de poser des cadres économiques et budgétaires très étroits. Et finalement, du coup, on est dans un entre-deux. Et une partie, si vous voulez, de notre proposition est d'essayer justement de mettre de la politique justement au niveau transnational, quelque part entre justement ce statu quo bruxellois et cette tentation finalement d'un repli défensif national ou de on le voit même d'une certaine manière dans la manière dont Emmanuel Macron a cherché à cadrer cette grande concertation nationale, justement pas du tout comme un enjeu européen mais comme un enjeu éventuellement même d'identité nationale, on a entendu dire. Donc il y a là quelque chose de cette tension entre des logiques nationales et européennes.
Et puis il est assez difficilement soutenable, ce statu quo quand même que vous évoquez, Antoine Vaucher, parce que quand on entend là à l'instant Pierre Moscovici souligner ce qui serait quand même une différence de traitement entre l'Italie et la France, estimant qu'il y a une urgence sociale en France. J'imagine que les Italiens estimeraient que chez eux aussi, il y a une urgence sociale à laquelle il faudrait répondre. Matteo Salvini a d'ailleurs tout de suite réagi en parlant de deux poids, deux mesures. Est-ce que ce n'est pas le cas là, dans la manière de justifier aussi cette entorse à la règle qui serait acceptable pour la France et qui ne le serait pas pour l'Italie ?
Alors, moi, je pense effectivement que l'on risque toujours à jouer ce jeu, finalement, intergouvernemental, à finir par avoir ce qu'on a eu après la crise grecque, c'est-à-dire, en fait, la résurgence très forte des stéréotypes nationaux, les Allemands sérieux, les Italiens dépensiers, les Grecs paresseux, etc. Et, évidemment, c'est tout le projet européen qui, finalement, en cause. Et donc, un des enjeux, c'est de sortir de ce prisme intergouvernemental. L'enjeu, c'est justement de d'échapper à ce jeu des intérêts nationaux et des tensions entre pays. Et donc, en ce sens-là, on a aussi pensé que ce budget ne pouvait pas être construit simplement par une énième négociation intergouvernementale, mais qu'il doit être construit en rapport direct avec la légitimité démocratique transnationale, c'est-à-dire avec une assemblée européenne qui serait directement constituée de délégations des parlements nationaux, de manière à faire émerger une politique transnationale qui soit pas simplement celle des intérêts nationaux, justement, et celle, justement, des stigmates nationaux qu'on s'envoie à la tête, mais au contraire, le lieu où, justement, ces grands débats européens autour de la fraude fiscale, autour de la solidarité fiscale, autour des inégalités, puissent émerger, autour de l'accueil des migrants également, puissent émerger comme des clivages transnationaux et pas simplement comme des oppositions entre gouvernements.
Et c'est pour ça que vous insistez aussi dans ce manifeste sur l'importance de réduire les inégalités au sein de l'Union européenne, non, au sein de chaque pays de l'Union européenne et justement pas au sein de l'Union, dans le sens d'une Europe des transferts, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là encore de jouer la carte de l'Allemagne contre l'Espagne ou l'Italie, de la Grèce contre le Luxembourg, mais bien de réduire les inégalités au sein de chaque pays. Anne-Laure Delatte, alors comment faire pratiquement pour redonner cette voix aussi démocratique?
Je crois qu'en effet, une grande différence avec le budget actuel, puisqu'on a un budget commun européen aujourd'hui, alors il pèse 1% du PIB européen.
Alors vous voulez rajouter un budget
au
budget?
Oui, nous on rajoute un budget au budget de 4% qui amènerait un budget commun européen à 5% du PIB. C'est un montant qui nous permettrait de mettre en place, donc de traiter ces questions publiques européennes. Je crois que la grande différence avec le budget actuel, il est précisément qu'aujourd'hui, le Parlement ne vote pas le budget actuel. Aujourd'hui, c'est une négociation intergouvernementale, donc on en vient à des conflits nationaux en permanence. Et deuxièmement, le budget aujourd'hui, il est basé sur une contribution nationale de chaque État. C'est-à-dire qu'on ponctionne dans les revenus de chaque État pour donner à l'Europe. C'est exactement le contraire des ressources propres qu'on essaye de lever, où on lèverait ensemble un impôt en commun. Qu'est-ce que ça change? Ça change que quand vous ponctionnez sur mon revenu à moi, je vais avoir le réflexe de vérifier qu'est-ce que j'y gagne. Et donc, chaque État, aujourd'hui, dans la négociation intergouvernementale qui est extrêmement compliquée, qui est très dure, a le réflexe de dire, bon, alors moi, j'ai contribué de temps et finalement, je n'ai pas bénéficié assez. Et le Brexit, c'est le résultat, notamment, enfin, de ces négociations intergouvernementales où on n'a pas un intérêt transnational qui émerge.
Mais là, les mêmes questions vont se poser avec cet impôt commun qui serait levé, puisque l'idée, c'est de jouer sur quatre tirelires, quatre porte-monnaies, les bénéfices des grandes sociétés, les hauts revenus, les hauts patrimoines et les émissions carbone. Alors là, ceux qui vont être sujets à ce prélèvement, à cet impôt européen, vont vous dire qu'est-ce que j'y gagne?
Alors, la grande différence, c'est que ce sont de nouveaux impôts. Donc là, on ne ponctionne pas sur un revenu qui existe déjà, des ressources fiscales qui existent déjà, ce sont de nouveaux impôts. Alors, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de nouveaux impôts. Attention, on a besoin de nouveaux impôts pour faire contribuer ceux qui ne contribuent pas assez aujourd'hui. Qui sont ceux qui n'ont pas contribué assez? Ce sont les multinationales, c'est Apple et Google qui payent moins d'impôts que le café du coin. Ce sont les hauts revenus, donc et les hauts patrimoines. Donc on propose clairement un ISF européen en réalité. Et enfin, le quatrième impôt que nous proposons de lever, c'est cette taxe carbone. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que dans certains pays, le kérosène est taxé et dans d'autres pas. Et une des raisons, une des motivations du mouvement des Gilets jaunes, c'était justement de dire, vous allez nous faire payer le diesel, qui est une partie importante de mon revenu quand je dois faire 20 km en voiture le matin pour aller travailler. Et quelqu'un qui prend l'avion ne paye pas de taxe carbone sur le kérosène de l'avion. Donc ça, voilà, on essaye de rétablir une justice fiscale sur la base d'impôts qu'on collecte ensemble. Donc ce sont pas des revenus qui existent déjà. Parce qu'on pense que le pacte social, le contrat social européen, il passe par ça. Rétablir une justice pour répondre au contrat social des Européens.
Et ça crée des inégalités, de l'égalité aussi entre les territoires. Ça veut dire par exemple sur cette taxe kérosène, d'éviter d'imaginer que les avions aillent se renflouer dans le pays d'à côté si le kérosène est moins cher dans ce sens-là. Alors, on va revenir à cette question d'un budget commun. Il y a aussi l'idée d'une assemblée européenne qui pourrait répondre au déficit démocratique. Reste à savoir si ce sera une strate supplémentaire encore au millefeuille. Je voulais juste vous faire revenir sur ces mots qu'avait eu Emmanuel Macron l'an passé au Parthénon à Athènes. Européen convaincu, il était porteur d'un projet de réforme de l'Union européenne que vous pourrez juger juste après. Mais au moment où il le proposait, les vents contraires étaient déjà forts. On l'écoute et on y revient.
Je veux que nous retrouvions, par la réconciliation d'une Europe qui s'est conjuguée à nouveau, la responsabilité et la solidarité, la force d'une souveraineté qui ne soit pas que nationale, mais bien européenne. Cela passera par des objectifs communs, une volonté de défendre ce qui nous a fait, par des réformes institutionnelles indispensables. Dans les prochaines semaines, j'y reviendrai en détail avec une feuille de route que je proposerai à l'ensemble de nos partenaires européens. Mais oui, il faudra une Europe dans laquelle nous osons à nouveau défendre la convergence sociale, fiscale, parce que c'est ce qui nous tient réunis et évite les divergences qui nous éclatent. Il faudra retrouver le sel de cette zone euro et inventer une gouvernance forte qui nous fera souverains, avec un budget de la zone euro, avec un véritable responsable exécutif de cette zone euro et un parlement de la zone euro devant lequel il devra rendre compte.
Emmanuel Macron, il y a un an. Alors aujourd'hui, il est affaibli, clairement, sur la scène intérieure. Est-ce qu'il va l'être désormais aussi au sein de l'Union européenne? Vous n'étiez peut-être pas d'accord avec tout, il n'allait peut-être pas assez loin. Mais dans ces vents contraires que vous signalez aussi dans ce manifeste, il était quand même plutôt porteur d'un projet pour l'Europe de démocratisation. Et d'une Europe plus sociale. Voilà, ça n'allait peut-être pas assez loin, mais il y avait déjà ça. Aujourd'hui, qui pour porter cette voix-là ? Antoine Vaucher.
Alors, d'une certaine manière, une des caractéristiques, enfin, de discours que vous avez passé à l'instant, c'est effectivement d'être dans une grande emphase européenne, mais finalement de rester à des mots relativement abstraits. Enfin, il me semble quand même qu'un des Une des choses qu'on paye en quelque sorte aujourd'hui, c'est de s'être un peu payé de mots à propos de la construction européenne, à propos de la politique européenne, et peut-être d'avoir besoin de projets concrets. Par exemple, comme le propose notre manifeste, de sortir justement d'une certaine conception de l'Europe comme une Europe des règles, comme une Europe dont les citoyens sont finalement les bénéficiaires ou les destinataires secondaires ou indirects. Mais au contraire de penser une Europe des biens publics, c'est-à-dire une Europe qui cherche à enrôler l'ensemble, en quelque sorte, des catégories sociales, classe moyenne, catégories populaires, qui sont sans doute les plus éloignées aujourd'hui du projet européen, mais qui sont susceptibles éventuellement d'être enrôlés dans un nouveau pacte, dans un nouveau compromis politique européen, si tant est qu'on est capable d'offrir justement une Europe des biens publics concrets, une Europe qui dont les citoyens sont réellement les destinataires primaires et non pas indirects. Et je pense que c'est peut-être aussi, d'une certaine manière, la conception de l'Europe qui est en jeu ici et qu'il s'agit de renouveler. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a voulu être très concret, c'est de donner une sorte de préfiguration de ce que pourrait être une Europe justement des biens publics d'échelle européenne, c'est-à-dire de mettre, comme on l'a fait sur le site internet du manifeste, je peux me permettre de l'indiquer, tedem.eu, où le manifeste reste ouvert à la signature, justement, eh bien, d'indiquer très concrètement qu'est-ce que ce serait qu'un traité de démocratisation, article par article, qu'est-ce que ce serait qu'un budget des biens publics européens, dépenses et recettes par recettes. Parce que c'est en repartant justement de choses très concrètes et d'une discussion point par point que justement on sortira des grands discours européens qui ont une longue histoire, évidemment, mais finalement des réalisations relativement modestes.
Dans le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que vous avez entendu un appel à un plus d'Europe ou surtout à un moins d'Europe à Nordelat?
Alors,
est-ce qu'il y en a beaucoup qui estiment aussi que la solution, effectivement, ne trouvera pas sa place dans l'Union européenne telle qu'elle l'est actuellement, mais qui ne croit pas à une possible et profonde remise en cause du fonctionnement de l'Union européenne? Donc la solution, ce serait moins d'Europe.
Bien sûr. Moi, j'entends plus d'Europe. Hein. Plus d'Europe parce que quand j'entends qu'il faut lutter contre les inégalités, qu'il faut rétablir la justice fiscale, on n'y arrivera pas tout seul. Étant donné les montants de l'évasion fiscale aujourd'hui, on n'arrivera pas seul, la France, à par exemple établir une taxe GAFA comme on n'a pas réussi. Donc à un moment,
ensemble non plus.
Non, mais justement, ouais. On n'a pas réussi avec l'Europe d'aujourd'hui, parce que l'Europe d'aujourd'hui, il faut de l'unanimité à chaque fois qu'on touche à du fiscal, ce qui est normal. Le fiscal, c'est le cœur du politique. Donc si vous n'avez pas une légitimité démocratique pour décider pour prendre des décisions fiscales, évidemment qu'on n'y arrivera pas ensemble. Aujourd'hui, le Parlement européen n'a absolument pas de compétences sur le fiscal, et c'est normal, c'est bien légitime, puisqu'il n'est pas, ce serait un énorme transfert de souveraineté. Donc c'est pour ça qu'on propose un Parlement, une Assemblée européenne en face de ce Parlement, qui lui est composé de parlementaires nationaux, donc des députés français, des députés allemands, députés italiens, qui, eux, ont la question fiscale dans leur mandat, puisque ce sont des nationaux, mais on leur propose de se voir, de discuter, et de discuter ce budget et de le voter, au final. Donc, la grande différence avec les propositions actuelles du gouvernement français, pour moi, il y en a deux. La première, c'est que oui, le gouvernement français parle de propose un budget, mais le montant n'est même pas mentionné. Et on en est pas, on parle de 0,0% du PIB. Hein. C'est-à-dire que le budget commun qui est proposé par l'Allemagne et la France en ce moment n'a absolument rien à voir avec ce qu'on propose. Et deuxièmement, tout se passe par une alliance franco-allemande. Nous, on propose de la diversité. On propose justement une coordination au niveau européen et pas une énième négociation intergouvernementale entre les Allemands et les Français qui finalement n'aboutira pas à grand chose.
Vous avez déjà des retours des instances gouvernementales?
Non, à ce
qui
stade.
Qui est prêt à appuyer non, ce manifeste
pour, oui, alors, non, moi j'aimerais insister sur le fait que c'est un manifeste qui a déjà obtenu plus de 15 000 signatures. C'est un manifeste qui a rallié autour de lui un ensemble de signataires qui viennent de tous les pays de l'Union européenne, mais pas simplement justement des hommes politiques, même si on en compte un certain nombre, mais aussi des syndicalistes. Notamment, par exemple, pour le dire, le responsable Europe de la DGB, qui est le principal syndicat allemand, des syndicalistes espagnols, portugais, bref, d'une certaine manière, une partie de ceux qui ont intérêt, justement, à ce que l'Europe change et à ce qu'elle joue plus sur des biens publics que simplement sur de l'organisation d'un grand marché.
Qui, en France, portera la voix de votre manifeste à la prochaine échéance électorale européenne en mai prochain? Est-ce que vous lui cherchez un débouché
politique?
Pour nous,
l'important, c'est que nos idées soient utilisées.
Elles
pour nous, l'important, c'est qu'elles soient reprises, et pas seulement en France. Ce manifeste a été publié dans 10 quotidiens européens. Il a été traduit dans l'ensemble des langues de l'Union européenne. Et donc l'enjeu, bien sûr, est français, mais il est très largement européen. Maintenant, aux autres, en quelque sorte, de s'en saisir. Il nous reste encore 6 mois jusqu'aux élections européennes, il me semble.
Antoine Vacher, une dernière micro-question. Le scrutin européen de mai prochain sera pour vous une caisse de résonance de la colère française et européenne, d'après vous? Quel message les électeurs voudront probablement faire passer à leurs dirigeants en se choisissant des représentants? Parce que pour l'instant, on en est là.
Le principal problème des élections européennes, c'est la capacité des partis à mobiliser sur cette élection-là. Ce qui caractérise, je dirais de manière classique, le rapport ordinaire des citoyens à l'Europe, c'est l'indifférence, bien plus que l'euroscepticisme. Donc l'enjeu, c'est effectivement de trouver les mots et surtout de trouver les politiques qui sont capables d'enrôler les citoyens et de les amener à voter. Mais telle que, la ligne de pente habituelle des élections européennes, c'est qu'effectivement, l'indifférence conduit à l'abstention.
Et que l'abstention sera peut-être demain le premier parti européen. Merci beaucoup à vous, Antoine Vacher. Merci, Anne-Laure Delatte. Vous nous redonnez le site?
C'est
pour
donc
la pétition, pour le manifeste.
www.tdem.eu.
Merci beaucoup à tous les deux. France Culture, il est 13h23. Tout de suite, c'est le rendez-vous de la médiatrice.
La grande table. Le rendez-vous de la médiatrice.
Et tout de suite, retour sur le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes. La médiatrice de Radio France a épluché vos messages. Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Olivia.
Et vous recevez aujourd'hui la directrice de France Culture, Sandrine Trainer. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour Emmanuel.
Sandrine Trainer, bonjour. On commence avec Vincent. Je vous lis un extrait de son courrier. Vous avez fait part jusqu'à ce jour d'une immense bienveillance pour nos chers Gilets jaunes. On est là face à un mouvement effrayant, apolitique, car tellement individualiste qu'il réfute la simple notion de représentation, mais brasse joyeusement les tests les plus extrémistes de droite et de gauche. Marie-Odile, une auditrice, rejoint son point de vue. Elle écrit « Je suis très déçue de la façon dont France Culture traite de l'actualité. Cette radio donne un avis favorable aux Gilets jaunes de façon très nette. Dès le samedi 17 novembre, aucune proposition de donner la parole à ceux qui prônent la taxe carbone, les écologistes. Aujourd'hui, un mois après, c'est encore le cas. Pourquoi ne pas proposer un peu d'analyse sur ces nouveaux types de manifestations qui montrent des passages à l'acte violent, avec des prises prise en otage de la population. C'est un fait de société grave et on dirait que les journalistes cautionnent et adhèrent. Je trouve cela étonnant qu'une radio comme la vôtre prenne si peu de recul intellectuel et clairement favorise le mouvement populiste. Alors Sandrine Trainer, quelle ligne éditoriale avez-vous choisie pour traiter du mouvement des Gilets jaunes sur France Culture ?
Alors, vous me permettrez de ne pas être tout à fait d'accord avec Vincent et Marie-Odile, non pas que je doute de leur de ce qu'ils ont ressenti à notre écoute, mais écoutez, je crois qu'on a vraiment fait l'inverse. Je suis devant quelqu'un qui pourrait en parler avec moi, parce que Olivia Gesbert a fait partie, et la Grande Table a fait partie du dispositif à part entière. Écoutez, c'est assez simple. Au fond, nous avons fait ce que fait France Culture, c'est-à-dire que dès le début du mouvement, nous avons décidé d'une part de laisser sur l'essentiel de la grille les émissions telles qu'elles avaient prévu leur programmation, en revanche de consacrer les matins la deuxième partie de la Grande Table et du Grain à Moudre aux grands sujets qui étaient amenés par ce mouvement. Alors, comment avons-nous fait ? En fait, nous nous sommes réunis, comme nous le faisons chaque lundi matin, et nous avons regardé quels étaient les fils qu'il nous semblait important de tirer. Alors, le fil, évidemment, les fils de la géographie sociale, les fils historiques du rapport à l'égalité, du rapport à la question du libéralisme ou pas, le fil évidemment des réseaux sociaux, le fil international, des comparaisons internationales, et nous avons programmé jour après jour dans la deuxième partie de la Grande Table, dans les invités des matins et en matière de débat le soir, nous avons invité des historiens, nous avons invité des chercheurs en sciences sociales, nous avons invité des géographes, nous avons invité des philosophes, nous avons invité des spécialistes des réseaux sociaux. C'est-à-dire, je crois que nous avons fait l'inverse de ce qui nous est reproché, c'est-à-dire reprendre du temps long, reprendre de l'analyse et de la perspective. Nous n'avons pas du tout été de plein pied dans le mouvement, et même je me suis parfois demandé si nous ne repartions pas d'une focale un peu longue. Je voudrais dire aussi que, outre le fait de privilégier l'analyse et l'approfondissement, et certainement pas la situation de parti pris, en revanche, nous avons été très attentifs, et je pense que c'était très important, vous savez, à cette notion du « eux » et « nous ». Il n'y avait pas « eux », le mouvement, et « nous », il y a « nous », une radio de service public, une radio qui s'adresse à tous, et j'espère que parmi nos auditeurs qui écoutaient les analyses en profondeur des chercheurs invités sur l'antenne, il y avait aussi des personnes qui faisaient partie du mouvement des Gilets jaunes.
Alors, qu'allez-vous répondre à cet auditeur qui s'étonne que France Culture imite les médias privés dans la dramatisation d'un malaise social réel en distinguant les gentils gilets des méchants du gouvernement? Le micro-trottoir permet de signaler les leaders autoproclamés qui appellent à la révolte, tandis que des journalistes de terrain multiplient les annonces de mobilisation de groupuscules aux revendications disparates. Alors Sandrine Trainer, est-ce que vous avez eu l'impression de dramatiser la crise sociale traversée par notre pays? Est-ce que le micro-trottoir, cette pratique journalistique, à sa place sur France Culture?
Écoutez, vous savez, le matin de la grosse manifestation qui a généré le plus d'inquiétude, celle du 8 décembre, du samedi 8 décembre, dans les matins du samedi, Caroline Brouet recevait Cyril Dion, qui était là pour parler d'écologie et de la manifestation pour le climat, vous savez, qui se déroulait en même temps, et qui a fait le pont entre la question de l'environnement et la question sociale telle que elle se manifestait dans le mouvement. C'est dire que, une fois encore, je vais vous répéter un peu la même chose, je crois. Je sais pas exactement ce qu'on appelle un micro-trottoir. En revanche, bah, évidemment, on a fait du reportage. Les journalistes font du reportage, et je crois qu'il faut parler de reportage. Il faut aussi entendre la voix des gens.
Je pense que ce que veut dire là l'auditeur, c'est que toutes les paroles ne se valent peut-être pas.
Écoutez, je sais pas qui doit être l'arbitre des élégances en la matière. Écoutez, le reportage est là pour donner la parole à différentes tendances, et je crois que le pluralisme reste la vertu cardinale de notre antenne, en tout cas.
Autre remarque d'un auditeur, Pierre, sur le choix lexical. Je m'inquiète d'entendre l'expression gilet jaune radicalisé par des journalistes de France Culture. Le dictionnaire autorise l'emploi de cet adjectif, mais on ne peut ignorer les implications politiques de la sémantique quand on produit le discours médiatique classique. Depuis l'émergence du terrorisme islamique ces dernières années, l'adjectif radicalisé évoque automatiquement la figure du terroriste djihadiste. Je suggère d'utiliser la richesse de la langue française pour qualifier l'évolution des mouvements de masse d'une manière moins connotée, moins stigmatisante. Sandrine Trainer, par le choix de ce vocabulaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un glissement métonymique de la figure du djihadiste à celle du gilet jaune?
Écoutez, je suggère exactement l'inverse et donc effectivement, je reprends votre terme, de profiter de la richesse de la langue française pour l'utiliser dans le sens des mots. Le mot radicalisé n'est pas un mot qui veut dire djihadiste et donc oui, il y a des mouvements, il y a des personnes, il y a des qui se radicalisent. On pourrait parler d'utiliser ce terme dans différentes circonstances et donc je propose qu'on en reste sur le dictionnaire. Pas de problème avec radicaliser.
Merci Sandrine Trainer.
Merci à vous.
Merci à toutes les deux. Le rendez-vous de la médiatrice est à retrouver dans 2 semaines. Merci à Nicolas Delmas qui est aux manettes aujourd'hui.